penser l'improbable, la biodiversité, l'écologie urbaine et la théorie queer, le tout en adoptant une lecture intersectionnelle, c'est l'ambition du podcast Intersection.
En confrontant la parole d'activistes, d'artistes, de chercheurs, chercheuses, venant de divers champs disciplinaires, l'émission a pour objectif de créer de nouvelles zones de contact, de nouveaux schémas réflexifs à même de mettre au jour des lectures du réel plus éclatées. À l'heure de l'effondrement, penser la lutte dans sa globalité et renverser les frontières entre les disciplines trouve pleinement son sens.
Alors venez nous découvrir, nous écouter, explorer, tâtonner et porter un nouveau regard sur l'activisme.
Intersection.
J'ai besoin de toi, 2 secondes.
J'adore travailler dans cette section.
Tu te rappelles, toi? Moi, ça s'appelle.
Gypsy.com, non?
Tu vois rien qui apparaît. Bon, bah ça va.
C'est pas mieux que toi. Mais pourquoi tu demandes pas? Mais pourquoi tu demandes pas? Parfois, elle connaît. Celle qui a pris Gypsy. Mais non, tu sais bien que je suis nulle.
Nous terminions notre dernière émission sur l'idée soulevée par le designer Gabriel Fontana de faire de nos corps des espaces. Des espaces de lutte, des espaces de réflexion, des zones de contact où la parole politique se rejoue. C'est en tirant ce fil que nous est venue l'idée de questionner cet objet, le corps, au centre du débat et des pratiques artistiques contemporaines. Ce corps en constante renégociation, en constant repositionnement au fil des luttes et des positionnements sociétaux. Comment définir et présenter nos corps à l'heure de la transition sociale et écologique? Comment remettre le corps sensible au centre des interrogations socioculturelles et politiques? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons discuter avec plusieurs personnalités, chercheurs, chercheuses, activistes, plasticiens, plasticiennes, à même de nous donner des clés de compréhension et nous mener à de nouvelles zones de réflexion. Nous ouvrons le bal avec le plasticien performeur trans Phoenix Atala, en résidence au laboratoire de Berville.
Comment tu te présentes et comment te représentes-tu ?
Facile comme question. Alors déjà je me présente, ça, donc ouais. Je m'appelle Phoenix Atala, je suis artiste transversal et trans, ça c'est peut-être une manière de me présenter et de me représenter. Enfin là je te la fais spéciale parce que je connais le sujet du podcast. Hein.
Ouais,
bien sûr. Je me présente pas toujours comme ça. Okay. Je fais de la performance et des films, parfois sous forme de séries, parfois sous forme de métrages plus classiques, moyens ou longs. Alors je sais pas comment je me représente, enfin je m'intéresse aux questions de représentation, ça c'est sûr. Dans mon travail, j'explore beaucoup les conventions des médiums que j'utilise, qui sont bien souvent des conventions arbitraires, mais qui servent à raconter des fictions et à diriger et à créer une image du monde particulière et très dire finalement très politiquement délimité. Et du coup moi ça m'intéresse toujours de déconstruire et de mettre à jour les conventions pour tout simplement déconstruire ce qu'on est en train de voir et être plus à même de d'être dans une sorte de contrôle des images et des informations qui sont données plutôt que un non-contrôle.
Donc tu passes par une forme de déconstruction pour
juste pour ça, juste pour avoir une maîtrise en fait des images qu'on m'envoie. Et donc du coup je raconte des histoires ou je fais des démonstrations qui ne sont en fait que de la déconstruction. Ça peut être soit de l'utilisation de la musique dans les médias, soit des techniques scénaristiques des séries télé, de la grammaire cinématographique en termes de montage, de cadrage, etc. Et comment ça influe la vision du monde. Et du coup, dans ce cadre-là, les questions aussi de représentation, notamment des minorités discriminées, pour aller vite, commencent à prendre... c'est pas que ça commence à m'intéresser, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais disons que ça commence à rentrer dans la matrice de mon algorithme pour fabriquer des récits ou des pièces ou des performances, etc.
Vous allez regarder un sitcom expérimental composé de 7 épisodes. C'est une série que je trouve très réussie et c'est la raison pour laquelle je cherche des producteurs pour m'aider à la diffuser. Il y a quelques mois, j'ai envoyé des rushs à une amie qui a sa propre maison de production. Elle m'a rappelé une semaine plus tard et j'ai immédiatement compris qu'elle n'était pas enthousiaste. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas aimé le ton de la série, qu'elle n'avait particulièrement pas apprécié la manière dont moi et mes acteurs faisions semblant de mal jouer. Elle a ajouté qu'elle avait détesté nos choix de vêtements pourris. Je n'ai eu, comme bien souvent, aucune répartie sur le moment.
Donc tu es Phoenix, en résidence au laboratoire d'Aubervilliers, et tu mets en lumière un travail de collecte d'images que tu as exposé sur le panneau à l'entrée des laboratoires d'Aubervilliers. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce travail de collecte et nous présenter ta démarche ?
C'est parti d'un projet que j'avais fait pour une demande de bourse un truc qui s'appelait la Villa Vassiliev. Et en fait, tu dois faire un projet qui prend en compte, il y a un rapport, il va venir après, mais qui prend en compte un fonds de photos qui s'appelle le fonds Marc Vaux, et qui est un mec qui a pris des photos genre de tous les artistes reconnus ou artistes amateurs circonscrits dans le quartier Montparnasse. Et genre il y a plein de photos, et franchement moi c'est pas du tout le genre de médium qui m'intéresse, enfin en plus en fouillant dans le truc il y a plein de problèmes pour le coup de représentation, de blackface, de d'appropriation culturelle, enfin bon il y a plein de qui sont explicables après par l'époque, mais qui, du coup, enfin ça soulève plein de questions. Et j'ai essayé de trouver du coup un projet pour utiliser toutes ces photos en restant dans les choses qui m'intéressaient. Et du coup, j'avais eu une idée de faire un truc en réalité virtuelle avec un artiste qui veut faire un projet avec ses photos et qu'on pourrait les prendre, les regarder et les jeter en fait, ou se raconter des histoires, pitcher des projets autour de ça. Et du coup en cherchant, je me suis dit j'ai commencé comme je te disais tout à l'heure, comme je commence à m'intéresser aux questions de la représentation notamment des personnes queer et des personnes trans dans les médias, les films, etc. Et qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, j'ai commencé à me demander si je pouvais pas travailler sur l'histoire des personnes trans. Et donc en fait simplement j'ai fait une recherche internet rapide. Et là les résultats ont été à la fois hyper intéressants mais à la fois super effrayant en termes. Après, je suis pas historien, mais si tu veux, je tombais sur des articles. Alors, je tombais déjà sur des personnalités où à chaque fois ça racontait des histoires complètement dingues, mais vraiment des vraies histoires de vie qui sont des histoires de vie de personnes qui sont transgenres, mais qui ont fait des trucs complètement dingues. Enfin, pas le mais est d'ailleurs malvenu, mais qui ont des vies qui valent d'être racontées et qui ont t'est raconté du coup par des historiens visiblement pas du tout spécialistes ou même simplement formés sur les questions de queer et de représentation et de langage autour des gens queer. Et donc ces personnes-là, quand on raconte leur vie, on la raconte en les mégenrant, on la raconte en se focalisant sur leur partie génitale, sur leur monstruosité d'une certaine manière, et leur accomplissement se retrouve placé à l'arrière-plan. Mais malgré tout, tu peux, même en lisant entre les lignes, tu découvres des histoires complètement dingues qui n'ont pas été racontées et qui n'ont pas été racontées correctement. Et du coup, pour faire ce projet de bourse, j'ai commencé à fouiller rapidement, mais genre en une journée, à me dire vas-y, je prends tous ceux qui ont l'air bien. Et ça en a fait pas mal. Et avec, du coup, autant de projets de films que de. Parce que ça pouvait aller effectivement de personnel. Une impératrice romaine, féministe, d'origine syrienne, qui a amené sa mère au Parlement, qui écoutait de la musique et dansait dans la rue, elle faisait des performances de dingue, et qui a fini par se faire tuer par sa grand-mère. Enfin bon, des histoires, des péplums, quoi, en fait, ouais. Péplums trans racisés, ouais. Voilà, moins 200 avant Jésus-Christ, donc c'est. Ouais, tu vois. Et donc, plein d'histoires comme ça, de personnes qui partent à la. Pas mal de soldats de la guerre de sécession, donc plein d'histoires complètement dingues, rocambolesques, super belles, où je me suis dit ça vaudrait le coup peut-être de les raconter, et en même temps, parallèlement, puisque ce qui m'intéresse c'est aussi justement la question de représentation, de convention des médiums et tout ça, de parler de cette recherche et de ce travail d'historien que je ne suis pas, mais de du coup quelle éthique on met là-dedans, comment déjà à partir de quel moment je décide de considérer que j'appelle une personne trans. Même ce jour-là, assez rapidement, je me suis dit si il y a une formulation dans la vie que la personne demande à être genrée autrement, je vais considérer qu'elle est trans. Un truc comme ça.
Mais quels outils en fait tu utilises pour toi-même, voilà. Avoir une sorte d'éthique et être dans une démarche de déconstruction, mais en même temps scientifique, entre guillemets.
Ouais, c'est ça.
Tu reposes un rapport historique et de récit sur la question d'où l'image, peut-être, tu as les plusieurs images de toi-même en train de travailler sur la
voilà. Terre. Parce que du coup, l'idée, ça aurait été de faire un projet qui raconte à la fois cette recherche et du coup qui mette en question ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire de découvrir que les historiens ont fait un travail complètement nul sur ces gens-là et que tout est. Et que tout est à inventer et à réinventer. Et que du coup, mais que faisant ça, du coup, tu crées une histoire et recentrer sur la question des représentations, une des choses qui est valable pour la communauté queer, mais aussi pour les personnes racisées et tout ça, c'est un gros problème aussi de positivité de représentation. C'est-à-dire que la plupart du temps, les minorités discriminées sont représentées par des gens qui ne font pas partie de ces communautés-là, qui ne sont pas situées dedans et qui appliquent des clichés aux personnes qui le représentent, et un des clichés, c'est souvent une forme de misérabilisme ou de représenter ces gens-là, et quand je dis ces gens-là, je veux dire nous, assignés à des positions de dominés, assignés à des positions d'échec, assignés à des endroits où on est face à des obstacles insurmontables, où on est discriminé, etc. Et du coup, jamais en puissance ou avec un contrôle sur notre environnement et avec des accomplissements qui valent d'être racontés comme les accomplissements des autres. Et du coup, voilà, et du coup de poser, de formuler dans cette histoire-là. Et depuis, le projet, il a un peu évolué C'est-à-dire que ça, je pense que c'est intéressant, croisements, mais j'avoue que je suis tombé vraiment hyper amoureux de cette histoire de l'impératrice. Plus avec une vérité historique, ça m'excite pas mal, donc je vais peut-être...
Aller dans ce sens-là.
Voilà, mais peut-être que ça me fait aussi un parcours de... J'en sais rien. Ouais. Peut-être que ça... Je sais pas, ça pourrait être une œuvre entière de raconter toutes les histoires de tous les gens sur cette affiche.
Je reviens sur ce que tu as dit, sur la posture de l'historien. Et j'aimerais faire un lien avec cette idée de construction et déconstruction des nouvelles formes de représentation.
Ouais, alors parce qu'en fait, si tu veux, effectivement il y a la déconstruction et on pourrait effectivement le prendre de manière finalement assez abstraite, assez froide, et même si moi j'y ai mis une vision politique hein, depuis longtemps, elle est pas complètement annoncée, à part par le fait d'estimer pour moi que le grand public, et je dis ça absolument sans que tout le monde doit avoir accès aux grammaires et aux conventions de chaque médium pour comprendre ce qu'on reçoit. À part ça, le monde change, il y a plein de choses qui s'accélèrent, et du coup je pense que c'est important d'être de plus en plus clair sur les implications politiques de l'utilisation et de la maîtrise de ces enjeux-là, de représentation, qui sont très forts. Et si ça l'était pas, il n'y aurait jamais eu de propagande, par exemple. En fait, si c'était pas, si tu veux, une force politique énorme des questions de représentation, on n'aurait pas des milliards de dollars dépensés dans... de dollars et de, je sais pas, de Dutch, je sais pas quoi là, dépensés dans la propagande. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser aussi la question du sens et du sens profond qu'on met dans les récits concrets, dans les films concrets, dans les pièces qu'on fabrique, et de se positionner maintenant de manière claire pour faire avancer les choses dans un sens qui doit être plus d'équité, d'égalité, de bien-être, de partage des ressources. Enfin voilà. Et donc du coup. La question d'éthique,
elle est là,
à cet endroit-là. C'est dire, ouais. Bon, si je le fais, je le fais parce que,
ouais.
Parce que je pense que effectivement les systèmes de représentation sont complètement dévoyés et qu'il faut y penser. Et qu'il faut...
Même si je crée un autre système de représentation, c'est qu'à l'éthique, je mets quoi.
Voilà.
C'était Phénix Atala pour Intersection Podcast, et on se retrouve très prochainement pour notre deuxième volet autour du corps. À bientôt.